RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir et merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International en cette soirée de Ligue des Champions. Nous vous l'avions dit, nous sommes au rendez-vous après ces matchs que vous avez pu suivre. Et donc, vous avez pu suivre la défaite des deux clubs français ce soir en Ligue des Champions. Le PSG a été battu par Liverpool, une victoire à l'arraché, mais une victoire méritée car les Parisiens ont semblé dépassés durant toute la rencontre. Au stade Louis II, une victoire des Colchoneros sur Monaco 2-1. Tous les buts ont été marqués en première mi-temps et les hommes de Leonardo Jardim ont été à la peine. Nous allons en parler avec nos envoyés spéciaux. Plus tôt dans la soirée, c'était un retour en fanfare en Ligue des Champions pour les interistes de Milan qui ont renversé leurs adversaires anglais, les Spurs, inscrivant leurs deux buts en fin de rencontre pour gagner à San Siro. Score 2-1, donc au détriment de Tottenham. Au Barça, le patron reste Messi. La Pulga a inscrit un triplé dans le score fleuve des Catalans qui ont corrigé 4-0 l'équipe du PSV Eindhoven alors qu'ils ont fini à 10. Samuel Umtiti a été exclu et nous reviendrons aussi sur les autres résultats de cette soirée. Invité dans ce studio pour évoquer ces sujets, Marc Libra, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Il y a face à vous Franck Simon, bonsoir Franck.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Merci d'être au rendez-vous, camarade de France Football. Et puis David Lortolari, notre camarade de RMC, ceux qui diffusent en France les matchs. Bonsoir David.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver.
Merci Alejandro, on continue avec vous, bonsoir.
Bonsoir Annie, bonsoir à tous.
Radio Foot, deuxième édition, c'est parti. Une Marseillaise signée par des musiciens et des chanteurs si célèbres de Liverpool. Évidemment, vous avez reconnu les Beatles pour souligner cette victoire des Reds à Anfield dans un stade en fusion en fin de partie au but de la victoire. Ce but inscrit par le Brésilien qui venait de rentrer, Roberto Firmino.
L'ouverture du score pour Liverpool et c'est Daniel Sturridge qui a poussé le ballon dans les buts d'Alphonse Areola et ça réveille bien entendu les 55 000 spectateurs d'Anfield. Milner face à Alphonse Areola et c'est là, Areola est parti du bon côté mais il a bu le petit filet, il l'a frappé merveilleusement James Milner, ce penalty. Paris qui a la tête sous l'eau, que c'est dur pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Et voilà la réduction du score. C'est Thomas Meunier avec ce centre de part d'André Di Maria. Il y avait Cavani qui a tenté un retourné dans la surface de réparation. Il n'a pas touché le ballon. Ça a surpris les défenseurs de Liverpool et Paris qui revient. L'égalisation parisienne avec Kylian Mbappé. Il a trouvé l'ouverture, Kylian Mbappé. Il a su être patient. Une frappe en force sur le côté gauche et Alisson, le Brésilien, qui n'a pas pu réagir. La contre-attaque, les Parisiens qui le perdent aussitôt qu'ils l'ont récupéré le ballon. Le but de Liverpool. Firmino qui donne probablement la victoire au Red de Liverpool. 3-2, c'est la catastrophe pour Paris qui avait fait le plus difficile.
Et oui, ce but à la 93e minute crucifie les espoirs des Parisiens qui avaient bien failli réaliser le hold-up parfait, on peut dire, Frédéric Suteau, n'est-ce pas ?
Oui, on a laissé quelques cordes vocales dans cette soirée. On a eu des buts, c'est plutôt une bonne nouvelle, un match de foot avec 5 buts, c'est pas tous les jours. Mais c'est vrai qu'ils avaient fait le plus difficile, ils revenaient de nulle part, les Parisiens. Alors Une faute d'inattention, non. Un ballon perdu, peut-être un peu bêtement par Kylian Mbappé, oui. Mais Mohamed Salah, lui aussi, a perdu le ballon dans le rond central et c'est ce qui a permis justement à Kylian Mbappé d'égaliser à deux partout. Mais cette 93e minute, elle va longtemps rester dans les esprits du côté des Parisiens, avec une équipe de Liverpool qui a joué son va-tout jusqu'au bout et qui est allé chercher une victoire complètement méritée sur ce que les joueurs ont montré sur la pelouse. Et finalement Firmino qui était incertain, laissé sur le banc. Jürgen Klopp, très bon coaching hein, pour lui, il l'a fait entrer pour les 20 dernières minutes. On ne le voyait pas trop, il a eu une occasion, une frappe, il l'a cadré, il a trompé Alphonse Areola. 3 points pour Liverpool, 0 pour Paris. La campagne parisienne s'annonce difficile, mais ce soir ils ne nous ont pas montré grand chose les Parisiens. J'imagine que vous allez en discuter avec nos invités, mais c'est assez décevant hein, du côté du milieu de terrain, notamment un trou béant. Marco Verratti était suspendu, alors on avait Adrien Rabiot, on avait Marquinhos qui était là, et Neymar, quand il avait envie de jouer, oui, il a eu quelques belles actions, mais il n'y avait pas de continuité dans le jeu parisien, et donc il y a beaucoup de travail. Thomas Tuchel ne fait qu'arriver. Alors c'est la balade en championnat, 5 matchs, 5 victoires, ça va être une autre histoire en Ligue des Champions.
Oui, c'est l'impression qu'on en a eu d'ici, de Paris aussi, Frédéric Suteau. Merci beaucoup pour votre intervention. Je sais qu'il faut que vous partiez vite dans les entrailles du stade pour aller à la rencontre un peu de ces joueurs et de leurs réactions. Merci beaucoup Frédéric Suteau et
merci.
À plus tard. Merci. On va se diriger, avant de commenter ce match, du côté de Monaco. Détour par la Principauté où on va rejoindre d'ici quelques secondes Olivier Pron, mais écoutons d'abord un résumé de ce match où là aussi le club français a été battu.
But à Monaco et l'ouverture du score pour les Monégasques. Samuel Grandsir est venu à bout portant frapper cette tête sur la ligne des 5m50. Oblak n'a rien pu faire et après 19 minutes de jeu, 1-0 pour Monaco face à l'Atlético Madrid. Égalisation, 31e minute. Coquet qui trouve Griezmann qui remet instantanément dans la course la remise de Griezmann, et après Diego Costa, il est tout seul face à Benaglio, et résultat, ça fait un partout ici au stade Louis II. On a deux buts, on joue depuis 32 minutes. Le corner a été frappé, la tête et le but de l'Atlético Madrid. C'est Jiménez qui vient récupérer ce ballon à bout portant et qui vient tromper Benaglio, qui ne peut que dévier ce ballon sous la transversale, mais cette balle est bien rentrée. L'Atlético Madrid prend les devants.
Olivier Pron, on vous retrouve du côté de Monaco avec toujours autant d'ambiance derrière vous, surtout pendant le match, au moment des buts.
Mais vous allez arrêter avec cette ambiance. Là, maintenant, on est une demi-heure après la fin. Je suis pas sûr qu'il y ait plus d'ambiance à Anfield.
Non, je plaisante. Ah, dans les rues, je pense que ça doit chauffer grâce au but de Firmino, n'est-ce pas?
À Monaco, j'ai demandé un service d'ordre. Hein. On sait jamais. Je suis pas en sécurité. Hein. Quand on sort en ville à Monaco, on sait jamais. Surtout qu'on risque de sortir tard.
Alors Olivier,
ça va discuter dans le vestiaire.
Non, oui. Si on peut dire que les Reds ont mérité leur victoire du côté de Liverpool et que les Parisiens ont quand même failli à leur mission, on va en débattre. Du côté de Monaco, c'était presque une surprise que Monaco ait ouvert le score.
Oui, mais à l'arrivée, le constat est exactement le même. Hein. Monaco méritait de perdre et l'Atlético méritait de gagner. Et l'analyse de Frédéric Suteau sur son match, elle pourrait presque coller au nôtre, si ce n'est que lui a une deuxième mi-temps à la hauteur. Nous, on a plutôt bien aimé la première période, parce qu'on a eu 3 buts et finalement, c'était plutôt une période assez enjouée. La deuxième a été beaucoup plus longue, surtout quand il y a pas les Beatles hein, à Monaco, ça c'est sûr. Ou alors, il y a les grands-parents des Beatles, mais c'est un autre genre de musique.
Vous avez Stéphanie
oui,
Monaco.
Ouais, il n'y a pas eu d'ouragan non plus. Hein. Dites donc, 18e minute, ouverture du score du jeune Grandsir. Ah bah c'est le projet de Monaco. Alors les jeunes, bah ils mettent du temps parfois à s'adapter, mais au moins Grandsir, premier match à 22 ans en Ligue des Champions et premier but, c'était contre le cours du jeu véritablement et c'est tout à fait logiquement que 10 minutes plus tard, un peu plus, eh bien Diego Costa va égaliser sur un très beau service. Le mouvement est magnifique. Hein. Coquet dans le rond central, la remise instantanée, la déviation de Griezmann dans la course de Diego Costa qui vient ajuster Benaglio et puis dans le temps additionnel. Vous l'avez entendu il y a quelques secondes. Donc cette tête de Jiménez sur un coup franc de Coquet et une main pas très ferme du côté de Benaglio. On aurait pu espérer mieux en deuxième période, mais c'est vrai qu'il y a eu le terrain vraiment tout pourri et la saison n'a commencé qu'il y a un mois. C'est vraiment une catastrophe cette pelouse et ça ne date pas d'aujourd'hui, bien sûr. À Monaco est extrêmement limité. Vraiment, quel chantier attend encore Jardim cette saison pour faire quelque chose de cette équipe avec des cadres en méforme, des absences et des jeunes qui doivent s'y mettre. On a eu beaucoup de mal à se trouver, beaucoup d'erreurs techniques. Il n'y a pas eu de danger du tout sur le but de Black dans les 45 dernières minutes alors que Monaco était mené. Du côté de l'Atlético, j'ai l'impression qu'ils ont joué plutôt à leur main. Il n'y a pas eu de grosses frayeurs, même lors de l'ouverture du score de Monaco. L'Atlético va se mettre en place tranquillement. Ils n'avaient pas besoin de faire beaucoup, beaucoup plus d'efforts que cela. Après, ponctuellement, on a vu quelques bonnes entrées du côté monégasque, je l'ai dit. J'ai plutôt bien aimé Grand Cyr. Jordim Boula a essayé de faire des choses. Moussa Silla, je parle des entrants. Jeu d'Aoulou, le Livoirien, a tenté une très, très belle frappe en première période. Mais les satisfactions sont minces côté monégasque. À l'arrivée, ça fait 0 point. Et après un match, un premier match à la maison, c'est vous dire si la tâche est compliquée déjà.
Un petit mot sur les Colchoneros et notamment sur Griezmann.
Écoutez, il n'a pas été... il a été décisif parce qu'il est passeur décisif. Il aurait pu d'ailleurs l'être une deuxième fois, mais le pied de Benaglio traînait par là. C'était également en fin de première période. C'était très très chaud sur un centre à bout portant d'Antoine Griezmann. Moi, je trouve qu'il monte en puissance. Il va s'améliorer de match en match. On a eu un peu de mal à le voir en début de rencontre. Et puis, finalement, petit à petit... Alors, c'est vrai, il n'y a pas eu de frappe au but. Il n'y a pas eu de tentative. Mais il y a eu cette passe décisive et globalement de bonnes intentions. On a vu quelques champions du monde, hein, puisque Thomas Lemar est rentré. Lucas Hernandez, on n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose dans son secteur, sauf peut-être l'ouverture du score avec la récupération de balles de Falcao donc en première période. Et puis de l'autre côté, Djibril Sidibé, tout ça reste quand même encore bien fatigué après l'été et toutes ces émotions.
Merci beaucoup, Olivier, d'avoir été présent avec nous en sortie de match. Et évidemment, vous imaginez, on va en débattre avec nos invités ici dans le studio de Radio Foot. Merci beaucoup et bonne zone mixte, comme on dit dans le langage des journalistes.
On va essayer.
Bonne pêche.
Vite.
Merci beaucoup, Olivier. Et bon courage. Alors revenons, si vous le voulez bien, chers camarades, d'abord sur la défaite du Paris Saint-Germain. Quelle impression vous a fait le Paris Saint-Germain? Alors je vais m'adresser à un Marseillais, alors j'espère que vous serez impartial, cher Marseillais.
Je suis très impartial. Déjà,
Marc Libra, comment vous est apparu le Paris Saint-Germain et aussi ces Reds qui, on le sait, on disait en rigolant le Fergie Time ou le Money Time, ils sont allés la chercher cette victoire.
Énormément déçu parce qu'on se rend compte que les années passent et que rien n'évolue au PSG malheureusement. Alors il faut même que je m'excuse puisque hier moi j'ai annoncé clairement sur CNews ce que je voyais le PSG vraiment l'emporter. Quand on a ce trio là, enfin ce quatuor, si on met Di Maria, on doit faire peur à toute l'Europe, on doit faire peur à tout le monde. Alors on est prévenu que Liverpool ça va être dur, on est prévenu qu'Anfield ça va être chaud, on est prévenu de tout et il se passe rien. Donc je suis vraiment déçu, je m'attendais pas à ça. Je pense qu'il y a vraiment rien à dire, c'est-à-dire que Mbappé est transparent, Neymar il joue, il fait ce qu'il veut. On peut dire ce qu'on veut, Mbappé qui tente un genre de petit pont ou grand pont à 25 mètres du but alors que le seul truc qui reste une minute c'est de dégager le ballon. À un moment donné, il va falloir quand même s'occuper de ce garçon et lui faire comprendre comment ça fonctionne le football, que c'est pas guinguette et qu'on peut pas s'amuser comme ça. Râteau, roulette, on s'amuse. C'est la Ligue des Champions. On a vu l'écart entre des joueurs qui sont pour moi de Liverpool moins forts. Quand on voit les deux latéraux de Liverpool et quand on prend alors Meunier, les autres, c'est pas possible quoi. Donc il y a un écart abyssal. Et dernière chose par rapport à leur coach, ils nous annoncent moi je veux jouer à la Guardiola. Très bien, très ambitieux. Donc Guardiola, il le verra jamais, il comprendra jamais Guardiola. Et une chose, quand il est arrivé, il a dit il y aura
quel
pas de passe droit.
Tourelle.
Ouais, Tourelle qui dit ça. Et après il y a quelque chose qui m'a dérangé puisqu'il a crié au effort, il y aura pas de passe droit pour les stars. On a vu la rencontre ensemble, je pense que Cavani est le moins mauvais des trois devant. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort Cavani. Après, il sort Di Maria.
C'était le même problème avec Emery face au Real Madrid.
On est, Alejandro, d'accord. C'est juste que lui dit, moi, il n'y aura pas de passe droit pour les stars. Donc, pour moi, les deux doivent sortir.
Donc, ça ne change pas au Paris Saint-Germain.
Il n'y a rien qui changera et c'est décevant.
Franck, Comment vous avez vu et ressenti ce match, et notamment évidemment parce que on s'attendait à la vitesse de en fil, c'est ce que disait Marc, on s'attendait à la vitesse, on s'attendait à des joueurs qui ne se fatiguent jamais. On les a vus jusqu'en finale l'année dernière. Alors la finale, on va pas la refaire et on sait ce qui s'est passé. Comment vous avez trouvé la réponse du Paris Saint-Germain finalement face à eux?
Déjà en prélude et en préambule, je fais pas partie des fossoyeurs. Néanmoins, effectivement, je partage le constat amer ou pas d'ailleurs de Marc. Ce soir, il y a une équipe du Paris Saint-Germain qui était prévenue, qui savait à quoi s'attendre, parce que les valeurs de Liverpool, elles datent pas d'aujourd'hui. Hein. Les joueurs passent, les valeurs restent les mêmes. L'intensité, elle est là, elle a toujours existé. Mais là, en plus, il y a une touche technique que n'avait pas forcément, on va dire, il y a 10, 15, 20 ans en arrière, leurs prédécesseurs. Donc tout ça, ils le savent. Ils sont prévenus. Il suffit juste de jeter un œil sur leurs dernières prestations pour savoir. Vous l'avez rappelé aussi, et que ce soit le PSG ou même Monaco, de l'autre côté, ils jouaient un vainqueur européen pour Monaco, et là, ils jouaient le finaliste de Ligue des Champions. Donc, pour moi, ils étaient pas favoris.
Pour moi, je les vois favoris, vraiment. Je t'assure.
Sur cette rencontre-là et à Anfield, pour moi, ils n'étaient pas favoris. Et c'était miracle de les voir égaliser dans ces 7-8 dernières minutes avant temps additionnel. C'était miracle parce que franchement, ils se sont fait bouffer dans tous les domaines. Le milieu de terrain, tout le monde l'a dit ici, c'était critique. C'était critique. Je sais pas ce que faisait Maria. Je ne comprends toujours pas ce que faisait Di Maria à ce moment-là, à cet endroit-là. Rabiot, pareil, il errait sur le terrain.
Il y a des choses mettre qui et ils ont qui d'autre.
Non, mais je dis pas qu'ils... Non, vous avez pas compris, Alexandre. J'ai pas dit. Faut pas qu'il soit là. Je vous dis. Qu'est-ce qu'ils foutaient là? Ils ont pas. C'est-à-dire, on attend de joueurs de football quand t'as pas la possession, et ils avaient pas la possession. Mais on attendait au moins. Marc le disait pendant la retransmission. On suivait la rencontre. Seconde mi-temps ensemble, mais est-ce qu'ils font vraiment l'effort? Est-ce qu'ils sont au contact même de l'adversaire? Alors il l'a fait un petit peu sur la fin, il a un peu sauvé les meubles. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est miracle qu'à 82-83 minutes de jeu, il y a cet exploit,
Et l'égalisation de Kylian Mbappé, effectivement.
Il ne méritait...
Quelle tromperie ça aurait été.
Mais oui, merci.
Mais oui.
Ça ne méritait pas mieux. Enfin, c'était un hold-up déjà de faire un nul.
Voilà. Exactement. David Lortolari.
Oui, Je suis pas réellement surpris à ce stade de la saison de ce Paris Saint-Germain avec cet entraîneur qui va essayer, on l'a dit en amont aussi de la saison, qui va essayer d'installer des joueurs. Marquinhos est peut-être l'exemple le plus frappant, d'installer des joueurs à des situations sur le terrain.
David Lortolari, alors moi j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que un soir de Ligue des Champions à Liverpool et à Anfield, on fait des tests? Parce que je veux bien qu'il les fasse quand il va à Guingamp, quand il va jouer contre
Rennes. Rappelez-vous, il a fait en Ligue 1. Hein.
Et ils ont gagné leurs 5 matchs, mais parce qu'il y a de la marge en Ligue 1. Oui. Mais je comprends pas.
Je suis pas surpris.
Je me fais l'avocat du diable et de beaucoup de supporters, sûrement du Paris Saint-Germain.
Je comprends
comment
bien votre
raisonnement. Comment Tourelle peut se dire qu'il va faire, alors, on en a beaucoup parlé de Tourelle, et grâce à vous, et on le suit depuis Dortmund, mais faire ça un soir de Ligue des Champions?
Alors je sais pas si c'est de l'orgueil, si c'est aussi peut-être, et nos collègues, nos camarades là n'ont peut-être pas dit aussi, faire peut-être aussi avec ce qu'on a. Alejandro disait qui mettre d'autre. Alors ok, l'attitude, nous serons d'accord, il y a des défaillances, le 2-0 rapidement dans le match est tout à fait logique, le Paris Saint-Germain n'y est pas. Mais après, on peut aussi, je veux pas pointer des joueurs individuellement, moi, parce que c'est l'équipe qui m'intéresse. On fait pas une équipe, Marc, avec 3 joueurs, même si c'est 3 stars. Mais Bernat, ça ne sera pas, sauf miracle cette saison, une progression incroyable, ça sera pas un latéral qui va tout casser. Quand Choupo-Moting entre...
C'est lui qui
à la
provoque
place
le penalty, d'ailleurs, hein, le c'est deuxième but, c'est Bernat qui... Et on avait attiré l'attention sur le cas de Bernat quand on avait fait la première partie de Radio Foot, parce qu'on avait bien vu que il est pas encore habitué. Peut-être à cette équipe, à sa décharge.
Et sur cette action, il n'est pas pertinent parce que il me semble qu'il y a 2 défenseurs qui sont là à proximité, qui peuvent tout à fait intervenir.
Qui ferment. Voilà, et qui vont mener vers le point de corner normalement.
Et lui vient intervenir de façon intempestive. Mais encore une fois, ça ne m'étonne pas parce que c'est, je vais pas dire que c'est un collectif ou un effectif de briques et de brocs, mais ça ne peut pas être au point aujourd'hui à l'heure où on parle, cette équipe du PSG. Et Tourelle, je vous le répète, je l'ai dit dès le départ, C'est un homme qui est capable de s'entêter, qui est capable de se casser les dents avec son système parce que il pense que ça va marcher, que ça peut marcher, qu'il a la bonne idée pour faire tourner tout ça. Pour l'instant, c'est pas le cas.
Ce qui peut peut-être être surprenant, Alejandro Valente, c'est que on disait que le groupe et Philippe Doucet qui nous racontait qu'il les trouvait plus forts que l'année dernière. Il dit qu'il les a vus récemment en Angleterre durant le week-end jouer à Tottenham. Et il nous disait, c'est vrai qu'on voit, c'est déjà pratiquement la même équipe que l'année dernière, renforcée. Mais le Paris Saint-Germain aussi, il y a une stabilité de l'effectif. Et là, on avait l'impression presque qu'ils ne se connaissaient pas.
Bah, je ne vois pas en quoi le PSG est plus fort là que face au Real Madrid, par exemple.
Non, c'était plus fort. Liverpool était plus fort.
Ah, Liverpool, pas le PSG. Oui, certainement, mais pas le PSG, parce que le PSG, pour moi, a eu un mercato assez décevant. C'est les mêmes, sans Daniel Alves qui n'est pas là parce qu'il est blessé, sans Corsavoie qui quand même vaut mieux que Juan Bernat, même si c'est pas exceptionnel, et Santiago Motta qui a arrêté et qui n'a pas été vraiment remplacé. Donc je suis pas du tout séduit par ce mercato parisien, et je pense qu'aujourd'hui on a vu toute cette impuissance. On reprochait à Emery qu'il n'arrivait pas à faire peser son influence au cours du match, mais qu'a fait Tuchel? On a senti aujourd'hui qu'il n'avait rien, qu'il n'avait pas des cartouches, qu'il n'avait pas des solutions, et c'est presque miraculeusement que le PSG est revenu au score.
Ça manquait d'ambition, tout simplement. Moi, j'appelle ça ambition, mais on a mis d'autres mots sur ces errances, là, voilà, collectives. Oui. Mais après, Marc a dit aussi quelque chose, et je suis obligé de revenir dessus parce que je suis d'accord. Quand t'as quelqu'un de la valeur de Neymar, t'attends autre chose de lui. Même s'il est pas seul, bien entendu. Tu as raison, il est pas tout seul sur le terrain.
Grâce à lui, il est à l'origine du deuxième but.
Autour de ça, il y a pas grand chose,
Je voyais les statistiques avant ce deuxième, justement. Je crois qu'il y avait 10 duels perdus pour lui.
10 ballons, 10 perdus.
Et seulement 2 duels gagnés.
On va retenir qu'il est à l'origine de. Mais non. Moi, ce que je retiens, c'est.
Je sais pas si vous avez vu, mais il est parti furieux. Il faisait une tête pas possible à la fin du match.
Un garçon comme ça, on a l'impression, mais il faut pas y toucher, il faut pas le faire sortir. Sur le pauvre Edi Cavani. Voilà, qui lui se bat défensivement comme il le fait depuis qu'il est arrivé dans ce club.
Et rien ne change.
Voilà, ça, rien ne change de ce point de vue-là. C'est quand même très dommageable.
C'est le plus gros problème.
Mais
pour
c'est
un
dû
groupe.
À quoi? À un problème d'imagination d'entraîneur, de schéma parfait qui n'est pas.
Mais le joueur, il vaut plus cher que l'entraîneur. C'est lui qui fait la loi.
Ça arrive partout. Cristiano Ronaldo n'était jamais remplacé au Real, Messi n'est jamais remplacé à Barcelone, sauf blessure.
Neymar
estime qu'il a besoin, qu'il a droit au même.
Entièrement d'accord. Le problème, c'est que pour être à ce niveau de ces deux joueurs qui, pour moi, sont là, il faut qu'ils fassent gagner le PSG à chaque fois. C'est bien beau contre Nîmes de jouer 3 minutes, de marquer un but. C'est bien beau contre... Mais ça ne suffit pas. Là, Neymar, c'est lui qui doit tirer l'équipe vélo et tout le monde doit être derrière lui.
J'aurais voulu voir Nkunku, par exemple, au coup d'envoi.
Mais plus que Di Maria. Parce que je comprends pas. Di Maria, pas sûr. Il est complètement perdu. Et après, on dit, ah, mais il est pas bon, Di Maria. Mais c'est normal, c'est pas son
temps.
À chaque fois qu'il est présent, il fait quelque chose.
C'est qu'il n'est pas à sa place, donc c'est un gros problème.
Est-ce que si Verratti avait été présent, pensez que ça aurait pu...
Non, parce que là,
parce qu'on parle d'un milieu de terrain, finalement, qui était un peu...
Peut-être un carton rouge, en plus.
Non, mais peut-être.
Imaginez.
Je l'ai pensé très fort.
Il ne faut pas que Verratti soit aujourd'hui en disant, mais attendez, si y a Verratti, c'est
mieux. Non, je vous demande ça à vous, parce qu'on se dit, il manquait certains éléments.
Verratti, est-ce qu'il est prêt aujourd'hui? Il aurait pris le bouillon, comme tout le monde, parce que physiquement, il n'est pas prêt, Verratti.
Il joue arrêté en ce moment, et ça aurait été un problème contre cette équipe.
Alors, on peut se pencher quand même, c'est sur la prestation de Liverpool, parce que, comme d'habitude, je dirais, nous ont impressionnés. Écoutons l'entraîneur des Reds, Jürgen Klopp, l'entraîneur allemand, au micro de nos confrères d'RMC.
On a joué avec un grand cœur, avec une organisation fantastique. Mais avec le ballon, nous avons également été bons. Nous aurions pu avoir un petit peu plus faim. Donc, c'était très clair que ce serait dur après l'égalisation. Mais on s'est dit qu'on allait continuer à pousser. C'était dur, mais on avait pas mal de possibilités. On s'est créé des occasions. Et donc, à la fin, il y a toujours un petit peu de réussite lorsqu'on marque un but aussi tardif. Mais je pense qu'on méritait la victoire pendant 95 minutes, donc j'accepte cette victoire. C'est ce qu'attendent les supporters. Et donc nous, on essaie d'avoir des résultats. Bien sûr, ça aide beaucoup. L'ambiance était exceptionnelle. Et j'en suis très heureux. Comme on l'a dit, les championnats européens, c'est toujours quelque chose de très spécial. Et bien sûr, ça nous pousse pour obtenir de bons résultats.
Oui, alors Locke, il dit Jürgen Klopp, c'est plus que ça quand même, parce que
on les a vus
pendant tout le match dominer.
C'est des mots qui sont quand même importants. Ils ont joué avec le cœur et mes joueurs avaient faim. Mais tout ça veut tout dire quand on est capable de dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on prend le cas de Milner. Milner, c'est pas forcément un très grand joueur. Vous avez vu les passes qu'il fait Milner à 20-30 mètres plat du pied. Elles arrivent toujours dans les pieds. Robertson, histoire de chez jeune gamin qui joue sur le côté. C'est pas possible. Alexander, pareil, qui joue sur un côté.
Tu prends les deux Africains qui étaient titulaires côté Liverpool. Qui sont des petits gabarits. C'est des gabarits légers. On est d'accord.
Exactement.
Mais faut voir
l'abattage. Ce qu'ils sont capables de faire sur le terrain.
Ce qu'ils font du point de vue physique. Voilà. Et on n'a pas vu ça du côté Paris Saint-Germain. Deux petits gabarits.
On le voit jamais.
Surtout les ballons.
On ne l'a jamais vu, le problème.
Et Salah n'est pas encore au point. Mm-hmm. Salah, il est loin d'être au point.
Exactement.
Qu'est-ce que ça va être?
Qu'est-ce que vous voulez ajouter?
Non, je voulais dire simplement. Alors, j'étais en train de me dire que ce que peut-être c'est l'affaire du manager de motiver les troupes et de mais ça paraît tellement naïf de dire ça parce que si les joueurs individuellement à l'aube d'une campagne de Ligue des Champions, quel que soit l'orage, parce que maintenant
évidemment
ils ont tous si le manager et Klopp est réputé pour cela et il l'a fait aussi avec Dortmund et il le faisait très bien aussi précédemment avec Mayence. Si ce manager arrive à tirer derrière lui une équipe pour réussir un match comme celui-là, ok, c'est la différence entre les deux, mais ça veut dire que les joueurs sont pas capables individuellement de se mettre à la hauteur de l'enjeu, c'est quand même curieux.
On est d'accord.
Il manque un catalyseur.
Quand on vit dans un groupe comme peuvent vivre les joueurs de Liverpool, tu le sais très bien que ça soit à Dortmund ou que ça soit à Liverpool, puisqu'on suit le championnat, tu sais très bien qu'il y a des joueurs cadres qui sont capables de sortir côté de Klopp.
Alors, c'est peut-être ça.
Pas de problème. L'autre côté, ce soir encore, le message, c'est Cavani qui sort encore une fois. Il mérite pas de rester sur le terrain. Tu sors Neymar et tu sors Mbappé et tu leur fais comprendre, il y a pas de patron. Le patron, c'est l'équipe. Vous êtes pas au niveau, vous sortez. Là, quoi qu'il arrive, on laisse Neymar, on laisse Mbappé.
Sans parler.
Et ça, c'est un gros problème. Parce que de l'autre côté, il y a des Firmino qui sont sortis. Il y a des Mané la saison passée qui étaient moins bien en janvier-février. Ils sont sortis du groupe. À part Salah qui était intouchable. Des Milner qui sortent, des Henderson qui sortent. Il n'y a pas de problème. Non, c'est intouchable. C'est intouchable. Donc, quand il y a des intouchables, il y a des favoris. Eh ben, pourquoi on va s'emmerder pour ces joueurs-là?
Franck a noté, le premier but a été inscrit par un certain Sturridge, puisque Firmino, qui marque le but final, ne rentre que sur la fin. On sait, il avait été blessé. Sturridge, qui est un sauveur de l'équipe, parce qu'il n'est pas toujours, avec ce trio, il n'a pas vraiment sa chance.
Mais quand vous voyez, c'est bien qu'on parle de lui, parce qu'effectivement, on ne l'attendait pas forcément au coup d'envoi. Bon, mettons. Et puis même dans l'entrejeu, on aurait attendu aussi un Naby Keita, le Guinéen, bon, qui n'y était pas. Il y avait Wijnaldum qui a fait une belle, je trouve un très beau match.
Gros match.
Vraiment un gros, avec beaucoup, un gros volume.
Il fait d'ailleurs la passe décisive.
Mais ce que tu dis, c'est vrai. Oui. Mais c'est vrai aussi, meilleur en sélection, Wijnaldum, mais c'est vrai aussi pour Sané. Sadio Mané qui a été exceptionnel, enfin qui fait ce qu'il sait très très bien faire avec son club et qu'on voit pas forcément en équipe nationale où là bon certains pourraient ont l'impression qu'ils tirent la couverture à eux-mêmes. Là en club il est bien entouré et il est exceptionnel.
Et je vais rappeler juste que Sturridge, il a marqué un but cette saison, c'était face à West Ham, première journée face au 4-0. C'est un joueur Annie, qui rentre à la 80-85e. Et après on me dit ah non mais les joueurs du PSG, ah non mais ils sont pas prêts, ils ont joué 1h30, 2h, c'est pas assez. Lui, Sturridge, qu'est-ce qu'il fait? Il mange le banc.
Il est sur le banc. Il sait le faire, ça, au PSG. Oui, t'as pas beaucoup de temps de jeu, mais quand il entre, il apporte toujours quelque chose.
Quand tu vois Sturridge, au départ, je me dis, physiquement, il va exploser. Effectivement, il a 70 minutes, mais en 70 minutes, il a foutu le bordel. Ouais. Et il joue jamais. Et après, on me dit, non, mais physiquement, si on joue pas, on n'est pas bien.
Bon, voilà. Il est allé blesser le gardien, quand même. Hein.
En plus, ce qui est extraordinaire, quand même, c'est que la Première Ligue et la Ligue 1 ont commencé exactement le même week-end. Donc, pour ce qui est de la mise en forme physique ou de la fatigue ou de l'entraînement, Alejandro, il serait censé.
Mais bon, il y a quand même un bon point à tirer pour le PSG.
Voilà, je voulais vous laisser le dire, alors je vous laisse le dire.
C'est le résultat de l'autre match, étoile rouge Naples 0-0. Donc ça, c'est encourageant.
Je console comme on peut.
PSG doit recevoir dans la prochaine journée l'étoile rouge. Après, les côtés négatifs, c'est qu'ils voulaient tourner la page avec Tuchel. Finalement, 4e défaite consécutive en Ligue des Champions. Donc, on reste sur ce qu'a été la fin d'Emery, puisqu'ils avaient perdu les deux matchs contre le Real.
C'est vrai.
Et ils avaient perdu la dernière journée de la phase des poules de la saison dernière contre le Bayern.
Absolument.
Et Areola, j'ai un petit mot, Areola quand même. Parce que Areola, c'est on tire, on marque. je suis très dur, mais on se pose la question numéro un. Tuchel, il va falloir qu'il revoie aussi ses choix par rapport à ça, parce que ce soir, un grand gardien,
mais là, il doit être décisif quelque part.
Il doit être décisif quelque part dans le match. Il doit sortir un truc.
De rencontre, il en sort. Une. Ou alors vous avez oublié ce qui s'est passé, messieurs. Mais
là, il n'avait pas le choix.
Le penalty, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire là sur le penalty? Je pense que tout le monde l'aurait pris. Voilà. On peut revenir aussi sur le marquage laxiste de la défense centrale du PSG. Après, il se fait aligner sur une tête, la tête de Sturridge. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Il a une boulette de tes défenseurs, tu dois à un moment donné, tu dois sortir quelque chose pour les sauver. Et malheureusement,
les défenseurs, c'est Kimpembe et Thiago Silva. Juste
Franck est gardien de but.
Franck est gardien de but.
Ah, mais je sais, il n'y a pas de problème.
Je veux bien sur Areola. J'ai eu des moments où j'ai été critique sur lui. Je trouve que là, sur ce match, c'est pas lui. Si on devait en incriminer un, c'est pas forcément lui.
On parle du milieu de terrain qui a été absent, mais aussi la défense.
On peut parler aussi, Annie, du gardien brésilien.
Hein. Oui, il est pas
choucard hein, sur les buts qu'il encaisse. Sur le but du Belge Meunier, il est où? Il bouge même pas. Il n'y a même pas un geste. On aurait dit moins, pour vous dire.
c'était
la minute bougon du gardien.
Alors, on a du mal avec ces nouveaux diffuseurs à assister à tous les matchs en même temps. Malheureusement, il va falloir que nous aussi on s'organise. Mais parlons quand même du match dont Olivier nous faisait un excellent résumé tout à l'heure sur cette défaite méritée, hein, nous disait-il, de Monaco. Alejandro Valente, ce Monaco, c'est vrai qu'on n'attendait pas. On l'avait dit dans la première partie de Radio Foot. Déjà, on les voit à la peine en championnat. Ils sont 15e. Alors, on sait qu'ils commencent toujours un peu comme un diesel. Jardim, faut qu'il observe ses joueurs pour finalement en tirer le meilleur. Mais là, quand même, en Ligue des Champions, c'est dur face à l'Atlético.
Si on regarde quand même au départ les deux équipes, il y a que des internationaux d'un côté et que des
champions du monde
ou presque de l'autre. À part Falcao, et Benaglio à la limite.
On ne sait plus là.
C'est comme le même... pape.
Les rares joueurs qu'on connaît un peu comme Chadli, on se demande si c'est le vrai Chadli qu'on a là ou si c'est.
Vous savez bien aussi que post Coupe du Monde, on connaît aussi les soucis des joueurs. On sait bien comment ça se passe. C'est des gars qui ont fait des grosses prestations en Coupe du Monde. Chadli, on l'a vu avec la Belgique.
C'est pas cher payé quand même. C'est pas
évident que tu arrives un mois et demi après pleine bourre.
Mais je veux dire, c'est pas cher payé parce qu'au départ, on s'est dit il y a un tel écart.
Mais l'Atlético d'aujourd'hui n'est pas à son plein
optimum. Heureusement.
En début de saison, on pensait qu'il serait effectivement beaucoup plus efficace dès le début. On prédisait à l'équipe de Diego Simeone des meilleurs jours, mais là, c'est vrai qu'ils sont à la peine. Oui. Et malgré tout, ils ont dominé le match.
Il y a pour l'instant quelques failles, même par exemple dans la défense centrale qu'on avait l'habitude de considérer à juste titre comme une espèce de muraille indestructible. Ça tangue un peu en
Qu'est-ce
début de saison.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Glick, là, sur le but, là? Il est pris de vitesse. J'ai l'impression qu'il avait,
il y avait trois, quatre wagons. Mais c'est valable pour celle de Monaco aussi, c'est vrai.
Hein?
C'était aussi, hein.
Il casse pas les gardiens, mais les centraux, oui.
Oui, j'ai souvent les problèmes avec les centraux.
Les mauvais états de la pelouse étaient presque une bénédiction pour Monaco ce soir.
Presque. Après, malheureusement, on a vu l'expérience d'une équipe de joueurs qui sont capables de chevronner une fois qu'ils ont marqué les deux buts, d'attendre et de laisser faire le match tranquillement.
Ça a rappelé une finale.
Mais de toute façon, ça sera toujours comme ça avec eux.
Ils sont conditionnés.
C'est des scorpions.
S'il faut souffrir, il faut souffrir. On marque et on attend. Maintenant, à vous de jouer. Et si on peut pas jouer,
dans ce
comme
groupe,
Monaco,
c'est presque déjà à moitié plié. Dortmund qui gagne à Bruges, l'Atlético qui gagne à Monaco. La prochaine journée, Monaco va à Dortmund. S'il perd là-bas, comme cela semble probable, ça va être à la cata.
Je vais quand même glisser un petit mot sur Dortmund parce que j'ai suivi avec attention ce match-là, peut-être pour rassurer un peu les gens qui espéreraient une qualification monégasque, deux premières places. Mais si, quand même, parce que Dortmund est quand même bien faible encore en ce moment et a obtenu sa victoire très difficilement. C'est une équipe qui
gagné.
Comptablement, c'est très
un
important.
Un but de casquette.
Mais on peut aller réussir quelque chose à Dortmund en ce moment en tout cas.
Ah,
je vous assure.
Même si on est Monaco.
Par contre,
Monaco-là, c'est pas sûr. Hein.
Ils sont parfois meilleurs à l'extérieur qu'à domicile.
Avec tous ces jeunes là, c'est pas simple quand même.
Hein. Oui.
Et là aussi, il y a un contexte qui je trouve est impressionnant, qui est motivant aussi, mais qui peut être impressionnant ou déstabilisant quand tu arrives dans ce stade, dans cette enceinte incroyable. C'est pas simple quoi. Hein, c'est
pas... une ambiance particulière, c'est ça ouais, que vous voulez
pas,
dire.
C'est pas l'ambiance.
Bah, je crois qu'ils quoi. Avaient 70 supporters espagnols qui s'étaient déplacés. C'est pas l'habitude des colchoneros en général.
On les voyait, ils étaient pas nombreux.
En général, ils ont l'habitude. Alors, en plus, c'est un stade un peu qui manque d'ambiance, un peu vide, un peu bon. En tout cas, Monaco renvoyait ses chères études. Mais est-ce que une question, est-ce que finalement peut-être que Jardine ne se lasse pas? Parce qu'il est là depuis plusieurs années, il accepte le challenge tous les ans. C'est vrai, ouais, c'est son contrat. Mais Alejandro, il a une équipe il y a 2 ans qui est championne de France et qui fait des miracles en Ligue des Champions. On s'en souvient, ces matchs contre City d'anthologie. Et puis finalement, on se retrouve là avec une équipe qui l'année dernière est sortie très tôt. Et cette année, vous lui prédisez déjà le même sort cette année.
Il aime peut-être souffrir. Il y en a qui aiment ça.
Je pense que c'est quand même un bâtisseur. Je pense que c'est un bâtisseur, il l'a prouvé. Je me souviens
alors
de sa première saison.
Il lui faut plusieurs mois, Franck. Il lui faut plusieurs
bien
mois.
Bien entendu.
Ouais, en général, il lui faut jusqu'au janvier.
Oui. Ouais, mais c'est je trouve que c'est un bâtisseur. Il a accepté cette mission.
Il finit
qui est
à chaque fois deuxième. Hein.
Je me souviens de sa première saison, comment il s'était fait massacrer par plein de choses.
Bah, la saison dernière, on disait les médias, pareil, et il a fini deuxième.
Il finit juste deuxième. Ouais. Voilà, juste
ouais,
ça.
À chaque fois, parce qu'il peut pas aller chercher le PSG.
Mais c'est vrai que c'est une équipe. Bon, il y a quelques cadres. Voilà, les Glick, les Falcao.
C'est aujourd'hui Glick est peut-être le problème parce qu'il a de plus en plus de mal quoi. Ouais. Ça devient compliqué donc il faut vite trouver puis Fabinho qui est parti devant la défense centrale, il faut retrouver. Et Sidibé depuis la Coupe du monde on l'a perdu je pense, même avant puis sa blessure.
Alors en début de soirée, arrêtons-nous sur ces matchs puisqu'il y avait 2 matchs décalés et qu'on a du coup pu beaucoup plus suivre et plus facilement. Parlons de cette ambiance folle qu'il y a eu du côté de San Siro parce que là le public milanais, alors heureux de retrouver la Ligue des Champions puisque ça faisait longtemps qu'à Milan on l'avait pas hein, depuis 2012. Eh bien ce public hors pair a poussé son équipe jusqu'à la victoire. Les interistes y ont cru donc jusqu'au bout. Ils ont eu raison. 2-1 le score final alors que les Anglais avaient ouvert le score. Franck, Tottenham, on le sait, l'année dernière ils sont allés jusqu'en 8e de finale, c'est l'équipe de Pochettino, c'est une équipe qui tient tête, alors elle s'était fait battre durant le week-end d'ailleurs par Liverpool, mais c'est quand même une bonne équipe et là ils se font, je dirais, coiffer sur le poteau hein, par une équipe de Milan ultra motivée.
Ouais, mais forcément, comme vous le disiez, comme vous le rappeliez, il y a ce retour dans cette compétition qu'ils ont remporté hein, il y a pas si longtemps aussi.
Exactement, en 2010.
Voilà, et c'était sous Mourinho si je me souviens bien, avec Samuel Eto'o notamment
qui joue latéral.
Exactement,
il n'avait pas un certain Milito aussi, qui claquait but sur but.
Ouais.
Hein, ils avaient été jusque en finale, ils avaient remporté la Coupe du monde des clubs. Enfin, il y avait eu toute une épopée.
Et oui.
Mais on en est bien loin aujourd'hui, c'est plus la même équipe, il y a eu des arrivées aussi. Bon, ils ont des ambitions. Moi, j'ai regardé le match vraiment d'un œil distrait parce que c'est vrai que de l'autre côté, et on va en parler dans quelques instants, il y avait aussi le Barça. Mais bon, c'est une victoire à la Pyrrhus, hein. C'est une victoire, voilà.
Oui, parce que les Anglais, surtout en première mi-temps, ils marquent, mais en plus, ils auraient pu marquer plusieurs fois.
Voilà, franchement, ça tourne bien. L'histoire, le scénario est quand même favorable à l'Inter. Donc, tant mieux pour eux, mais.
Ça va être à la sud-américaine même, hein, avec Icardi et Vecino.
Oui. Mais c'est un groupe. Je suis pas persuadé qu'ils en sortent de ce groupe quand même. Hein.
Après, est-ce que Tottenham avait digéré ce week-end, c'est-à-dire la gifle infligée par Liverpool?
3e défaite pour Tottenham, toute compétition confondue.
C'est assez surprenant. Donc peut-être ils avaient encore ça, puisque une fois qu'ils ouvrent le score, finalement on se dit est-ce qu'on peut gérer? Tottenham n'est pas une équipe qui peut gérer aujourd'hui. Il faut qu'elle continue à attaquer, il faut qu'ils jouent. Dès qu'ils se mettent à gérer, on l'a vu, le but d'Icardi relance tout, relance la machine. Et là, il se trouve à San Siro où ça pousse et il s'écroule fort logiquement. C'est
86e minute, hein, le but d'Icardi et après, voilà, exactement.
C'est pour ça que ils ont un scénario quand même qui est bien favorable. Bon, mais pour l'Inter, je vous dis encore une fois, je suis pas persuadé dans ce groupe B.
Une Inter en reconstruction, on va y venir parce que dans le groupe,
il y a... Sortent, 3 pour 2 places.
Parce que le PSV est forcément un peu moins.
Ouais.
On va y venir. En tout cas, Spalletti, hein, l'entraîneur Luciano Spalletti, l'entraîneur de l'Inter,
il a
déclaré cette victoire en ayant renversé le résultat. Cela te donne beaucoup d'enthousiasme et de raison de croire en tes capacités en l'avenir. On est sur la bonne route. L'équipe a joué en équipe. Alors il pense qu'il faut encore un peu d'entente entre Icardi et Nainggolan qui arrivent de la Roma, et il dit ce soir c'est une grande victoire contre une bonne équipe qui joue un bon football avec un grand entraîneur. Oui. C'est dur par contre pour Tottenham, David.
Oui, mais c'est aussi il y a cette confrontation directe d'une part où il y aura le retour en Angleterre, oui. Tottenham peut tout à fait marquer plusieurs buts chez lui contre l'Inter, et ça retourne, c'est ce que Franck sous-entendait, ça retourne aussi l'équilibre, ouais, dans un groupe comme ça,
voilà.
Ouais. Mais l'année dernière, ça leur avait pas réussi, hein. Il s'était arrêté en huitième de finale et...
Oui, le problème, c'est que le match contre l'Inter va arriver après d'autres matchs, notamment contre Barcelone,
en
donc fin, il faudra
en fin de campagne,
que,
oui.
Qu'il relève la tête bien plus tôt.
Mm-hmm. Peut-être un mot sur notre ami ghanéen. Je dis notre ami parce qu'il y avait un Africain et qu'on connaît bien, hein, qui, je crois, est arrivé d'ailleurs à l'intersaison. Kwadwo Asamoah, qu'on connaissait de la Juventus. Hein, c'est un taulier, un routier du football de la Serie A. Et donc voilà, qui a retrouvé une place dans cet entrejeu, plutôt au couloir gauche. Hein, là, on l'a souvent vu s'illustrer. Donc il fait partie, lui, des Africains qui seront illustrés positivement
et
ce soir.
Il est passeur pour Icardi, si les souvenirs sont bons, c'est exact. Lui qui sent du pied gauche, mais manne un caviar.
Voilà, un joueur important, un joueur africain, donc, qui n'a pas été souvent valorisé, mais c'est bien de le rappeler ce soir. Voilà, il y a Kwadwo Asamoah dans le camp des vainqueurs.
Alejandro, alors vous êtes logiquement attaché plus à l'autre match, et c'est vrai qu'on
essayait régalé,
de zapper régalé, sur les deux matchs. Un 4-0 du FC Barcelone, et on a vu alors un triplé de Lionel Messi. On a vu aussi un très beau but de Ousmane Dembélé.
Absolument, mais les résultats étaient un peu trompeurs, parce que jusqu'au dernier quart d'heure, quand même, Barcelone ne menait qu'un 0 et sur un coup franc de Messi, donc on sentait que Barcelone avait du mal quand même à se créer des occasions, et le PSV, sur des contres, faisait passer quelques frissons sur le Camp Nou, un Camp Nou à moitié vide, parce qu'à 19h, c'est le début de l'après-midi.
C'est juste. Ils sortent de la sieste.
C'est ça. C'est un peu compliqué. Mais voilà, et Messi était là. Il y a eu quelques buts fantastiques. Il y a eu l'expulsion d'une Titi, quand même, un peu bête.
Double carton jaune.
Et puis, un très joli but de Dembélé, comme vous le disiez.
Il échappe à deux joueurs
et il marque d'une frappe splendide. Et ça montre que Dembélé, avec beaucoup de déchets, quand même, dans son jeu, c'est rappeler
défaut de la jeunesse, hein, on l'a dit aussi tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
On l'a dit pour Mbappé.
Mais
on peut
il
dire
est
pour
présent,
Dembélé,
il cherche et il finit par obtenir.
Il a encore marqué le week-end dernier, encore une fois.
Oui, il est très bien.
C'est bien.
Mais moi, j'aurais bien aimé qu'on parle de ce coup franc, de cette feuille morte. Magnifique, le premier but, parce que c'est quand même, c'est pas rien, quoi, ce coup de pied. Alors, c'est vrai qu'il
nous a. 32e minute.
On a l'habitude avec Messi.
Alors, ça y est,
mais
tout de même, quel.
Je suis pas un fan, mais c'est vrai. Décrivez-nous ce but.
Que vous décrivez, c'était une courbe magnifique, hein, une feuille morte, un ballon qui part très très haut et qui va se loger dans la lucarne.
Ouais, voilà.
En fait, il tombe littéralement.
C'est fantastique. Ouais,
c'était magnifique de voir ce ballon. Il n'y a pas un gardien qui peut la sortir. C'est impossible. Impossible. Et ça donnait le ton un petit peu. Bon, après, c'est vrai que ça a ronronné jusqu'à ces derniers instants où, voilà, ils ont mis le pied sur l'accélérateur.
Et pour aller dans ce sens-là, ce genre de ballon, ce genre d'enroulé, il y a très peu de joueurs qui sont capables de le faire.
Il faut qu'il y ait une souplesse dans la
chaîne. Ouais, non, mais là c'est même pas une souplesse. Moi, je n'étais pas capable de tirer comme ça. C'est-à-dire que c'est à peine, tu sais que tu vas le toucher avec ton pouce, dans ton pied, tac, tu vas le toucher, et tu le sens à peine, et hop, et ça va, mais pour moi, c'est irréalisable. C'est-à-dire, moi, je mets tous les doigts du pied, moi, je vais toucher tout, tu vois. Et là, c'est juste le pouce, il te caresse.
Juninho ne savait pas les faire, celle-ci.
Exactement.
Juninho avait d'autres trajectoires. Il créait d'autres. Il a inventé une façon de tirer les coups francs.
Plus coup de pied à l'époque.
Mais qui était plus coup de pied. Or que là, il y a une finesse chez Messi qui
est de la douceur.
Et il y a une autre finesse, je sais plus si c'est le troisième ou le quatrième but, un extérieur du pied, tout en finesse de Suarez pour Messi qui est aussi délicieux. Ouais, là, vraiment, c'était.
Oui, ou l'action où Rakitic.
Il effleure à peine le ballon.
Aveugle et ils marquent sans contrôle.
Ouais, ouais, exactement. C'est vrai qu'ils ont régalé. Bon, par instant, ils savent le faire. Ça, on
après, c'est
capable,
pas un Barcelone encore à 100%, loin de là.
Mais ça ronronne depuis le début, c'est ce qu'on dit.
Oui, mais il y a un collectif déjà. Quoi.
Ouais, ça ronronne un petit peu partout chez les grands. Ouais. Bon, on a l'impression qu'il y en a qui sont un peu en avance, style Liverpool. Voilà.
Ouais. En tout cas, c'était le 103e but de Lionel Messi en Ligue des Champions. Donc, comme quoi, finalement...
Ah, il était à 100, il est passé à 103.
Si je me trompe pas, c'est 103, hein, Alejandro, 103 buts.
Quand est-ce qu'il s'arrête, hein?
Quand il a rattrapé Cristiano.
Donc, dans ce groupe...
Ronaldo est en colère ce soir. Cristiano Ronaldo,
il a pris la tête des joueurs qui ont marqué des triplés en Ligue des Champions.
Oh là là.
Donc,
En tout cas, dans ce groupe, donc le groupe B, eh bien, l'Inter de Milan et le Barça sont donc en tête. Tottenham et Eindhoven n'ont marqué aucun point. Et d'ailleurs, on peut s'arrêter eh bien sur les autres résultats d'un autre groupe où il y avait des matchs ce soir. Schalke 04 hein, face au FC Porto.
Oui, je peux vous en renseigner.
David Ortolari.
Dites-nous tout, David.
Score 1-1.
Il y a eu deux pénalties pour Porto et finalement un seul but à l'arrivée.
Un arrêté effectivement par Ralf Herrmann, qui est un grand gardien, qui est assez adroit dans l'exercice des pénalties, et ça donc ça n'est pas forcément une surprise. Schalke avait ouvert le score et finalement
Mbolo, hein, un joueur
Mbolo,
international suisse,
voilà, un mondialiste.
Brel Mbolo, il est l'un des rares à parvenir à marquer quelques petits buts cette saison avec Schalke, parce que cette équipe en ce moment a beaucoup de mal à passer de cette saison réussie en défendant l'an dernier. Très défensive, très réactive, et on a du mal à créer un nouveau projet avec ce jeune entraîneur qui n'a pas encore trouvé le plan B pour faire jouer son équipe autrement. Schalke est assez impuissant, et finalement, moi quand je les ai vus remonter de 1-0 à 1 partout, rattraper, j'ai pas été plus surpris que ça, parce que pour l'instant cette équipe
les Africains, n'est pas au point. Les joueurs offensifs étaient du côté de Porto, parce que j'ai pas vu la feuille de match. Marega, Vincent Aboubakar, Brahimi étaient présents.
Oui, et côté Schalke, en revanche, l'international marocain, comment s'appelle-t-il, Mandil, n'était pas titularisé parce qu'il avait fait un match catastrophique ce week-end. Il n'est pas encore très à l'aise dans cette équipe.
Marocain avec des origines ivoiriennes, absolument.
Il était sorti ce week-end après une petite demi-heure de jeu parce que son entraîneur voulait éviter une expulsion. Il était pas bon sur les duels. Il a encore du travail pour s'intégrer dans ce collectif qui n'est pas encore au point, Schalke.
Une chose à noter du côté de Porto, c'est ce record, on va dire, pour Iker Casillas. Ah oui. Iker Casillas a 37 ans. L'ancien encore un gardien. 172, vous me posez la question, Marc.
Un monsieur, voilà.
C'est le premier à participer à 20 Ligues des Champions.
Super.
Voilà.
Fait plaisir. Pour moi, c'est un monument du football international, quoi. Même si on sait qu'à un moment donné, il a un petit peu chuté aussi, hein, mais.
Nous, on a Nivet qui a 20 ans de football.
Ouais.
J'adore Nivet.
Et qui est,
en Ligue 1.
Qui est même un peu plus âgé, d'ailleurs.
Qui est un taulier.
Ouais.
Complètement.
En tout cas, là, Casillas, il avait passé 25 ans au Real Madrid, hein, et on se souvient de lui, capitaine des champions du monde. Et là,
12 ans à Porto, 14 ans au Real.
Ouais, à 70 ans, toujours dans les buts. Ouais, il a mon petit garçon.
Pour l'instant, c'est le FC Porto où il est depuis 2015.
Et puis, dans l'autre match, Galatasaray, malgré l'expulsion des Papandiaï, le joueur sénégalais, a gagné 3-0 face à Lokomotiv de Moscou. Alors un match assez rapidement plié avec un but très tôt de Gary Rodriguez, les Capverdiens, et puis beaucoup d'occasions pour Galatasaray qui l'emporte assez
très
facilement.
Très bon Gary Rodriguez, très bon joueur.
Eh bien voilà ce qu'on pouvait dire sur cette soirée de Ligue des Champions. Je vous rappelle quand même le score des deux équipes françaises engagées dans cette compétition ce soir, parce que demain il y aura un autre match avec une équipe française, mais c'est Liverpool et les Reds qui l'ont emporté à Anfield du côté donc du nord de l'Angleterre dans le stade d'Anfield. Si chaud avec ce You'll Never Walk Alone évidemment, et Liverpool l'a emporté sur le score de 3-2 contre le Paris Saint-Germain. On l'a passé tout à l'heure dans l'émission. Monaco à domicile a perdu, battu par l'Atlético Madrid sur le score de 2-1. Demain soir, on aura encore des rencontres. Demain soir, on sera aussi en direct avec vous, chers auditeurs. Et notamment, il y a Lyon, le déplacement de Lyon, Alejandro Valente.
Oula, Manchester City.
Voilà.
Oula, ça sent pas bon. Ça sent pas les points.
Ça sent les triplés pour les clubs français.
Ça risque d'être difficile.
On fait le bilan demain, c'est ça?
Oui, voilà. Frédéric Suto se déplacera de quelques kilomètres. Il passera de Liverpool à Manchester City.
Ça va vite. Avec le petit train, ça va aller vite.
Exactement.
Il y a aussi les tenants du titre qui ramènent
le Real Madrid, bien sûr, qui joue
face à la Roma.
Voilà, et on a aussi Cristiano Ronaldo, parce que maintenant il faut dissocier les deux, Cristiano Ronaldo et la Juventus, qui joue aussi demain soir à Alejandro, à Valence.
Ça vaudra. Il va revenir en Espagne.
Des belles choses demain soir aussi en Ligue des Champions, bien sûr. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir veillé avec nous ici.
Merci Annie, merci à tous.
Merci à David Finzel, qui m'a aidé à préparer l'émission et à trouver tous ces petits sons pour vous informer au mieux. Et puis Guillaume Ploquin, qui était à la réalisation. Et on vous dit à demain.